Qu'est-ce qui détermine le prix d'une marchandise ? C'est la concurrence entre les acheteurs et les vendeurs, le rapport entre l'offre et la demande. La concurrence qui détermine le prix d'une marchandise est triple. La même marchandise est offerte par divers vendeurs. Celui qui vend le meilleur marché des marchandises de même qualité est sûr d'évincer les autres vendeurs et de s'assurer le plus grand débit. Les vendeurs se disputent donc réciproquement l'écoulement des marchandises, le marché. Chacun d'eux veut vendre le plus possible, et vendre seul, si possible, à l'exclusion des autres vendeurs. C'est pourquoi l'un vend meilleur marché que l'autre. Il s'établit, par conséquent, une concurrence entre les vendeurs, qui abaisse le prix de la marchandise offerte par eux. Mais il se produit aussi une concurrence entre les acheteurs, qui, de son côté, fait monter le prix des marchandises offertes. Il existe enfin une concurrence entre les acheteurs et les vendeurs, les uns voulant acheter le meilleur marché possible, les autres voulant vendre le plus cher possible. Le résultat de cette concurrence entre acheteurs et vendeurs dépendra de la façon dont se comporteront les deux côtés de la concurrence mentionnée plus haut, c'est-à-dire du fait que c'est la concurrence dans l'armée des acheteurs ou la concurrence dans l'armée des vendeurs qui sera la plus forte. L'industrie met en campagne deux armées de masse, l'une en face de l'autre, dont chacune à son tour livre une bataille dans ses propres rangs entre ses propres troupes. L'armée de masse dont les troupes ont reçu le moins de coups remporte la victoire sur l'armée adverse. Supposons qu'il y ait 100 balles de coton sur le marché et en même temps des acheteurs pour 1000 balles de coton. Dans ce cas, la demande est 10 fois plus grande que l'offre. La concurrence entre les acheteurs sera par conséquent très forte. Chacun de ceux-ci veut s'approprier une et si possible toutes les 100 balles. Cet exemple n'est pas une hypothèse arbitraire. Nous avons vécu dans l'histoire du commerce des périodes de mauvaise récolte du coton où quelques capitalistes coalisés entre eux ont cherché à acheter non pas 100 balles, mais tous les stocks de coton du monde entier. Dans le cas donné, un acheteur cherchera donc à évincer l'autre du marché en offrant un prix relativement plus élevé pour la balle de coton. Les vendeurs de coton, qui aperçoivent les troupes de l'armée ennemie en train de se livrer un combat tout à fait violent entre elles et qui sont absolument assurés de vendre entièrement leurs 100 balles, vont se garder de se prendre aux cheveux entre eux pour abaisser le prix du coton, à un moment où leurs adversaires rivalisent entre eux pour le faire monter. Voilà donc la paix survenue soudain dans l'armée des vendeurs. Ils sont comme un seul homme, face aux acheteurs. Ils se croisent philosophiquement les bras, et leurs exigences ne connaîtraient pas de bornes si les offres de ceux-mêmes qui sont le plus pressés d'acheter n'avaient pas leurs limites bien déterminées. Si donc l'offre d'une marchandise est plus faible que la demande de cette marchandise, il n'y a pas du tout ou presque pas de concurrence parmi les vendeurs. La concurrence parmi les acheteurs croît dans la proportion même ou diminue cette concurrence. Résultat, hausse plus ou moins importante des prix de la marchandise. On sait que le cas contraire, avec son résultat inverse, est beaucoup plus fréquent. Excédent considérable de l'offre sur la demande. Concurrence désespérée parmi les vendeurs. Manque d'acheteurs. Vente à vil prix des marchandises. Mais que signifie hausse, chute des prix? Que signifie prix élevé, bas prix? Un grain de sable est grand, regardé à travers un microscope, et une tour est petite, comparée à une montagne. Et si le prix est déterminé par le rapport entre l'offre et la demande, qu'est-ce qui détermine le rapport de l'offre et de la demande ? Adressons-nous au premier venu des bourgeois. Il n'hésitera pas un instant et, tel un nouvel Alexandre le Grand, il tranchera d'un seul coup ce nœud gordien métaphysique. Si la production de la marchandise que je vends m'a coûté 100 francs, nous dira-t-il, et si je retire de la vente de cette marchandise 110 francs, au bout d'un an, entendons-nous, c'est un gain civil, honnête, convenable. Mais si j'obtiens en échange 120, 130 francs, c'est alors un gain élevé. Et si j'en tirais 200 francs, ce serait alors un gain exceptionnel, énorme. Qu'est-ce qui sert donc au bourgeois à mesurer son gain? Les frais de production de sa marchandise. S'il reçoit en échange de cette marchandise une somme d'autres marchandises, dont la production a moins coûté, il a fait une perte. S'il reçoit en échange de sa marchandise une somme de marchandises dont la production a coûté davantage, il a réalisé un gain. Et cette baisse ou cette hausse du gain, il la calcule suivant les proportions dans lesquelles la valeur d'échange de sa marchandise se tient au-dessous ou au-dessus de zéro, c'est-à-dire des frais de production. Mais nous avons vu comment les rapports successifs entre l'offre et la demande provoquent tantôt la hausse, tantôt la baisse, entraînant tantôt des prix élevés, tantôt des prix bas. Si le prix d'une marchandise monte considérablement par suite d'une offre insuffisante ou d'une demande qui croît démesurément, le prix d'une autre marchandise quelconque a baissé nécessairement en proportion. Car le prix d'une marchandise ne fait qu'exprimer en argent les rapports d'après lesquels d'autres marchandises sont échangées contre elles. Si, par exemple, le prix d'une aune d'étoffe de soie monte de 5 à 6 francs, le prix de l'argent a baissé relativement à l'étoffe de soie. Pour recevoir la même quantité d'étoffe de soie, il faut donner une plus grande quantité d'argent en échange. Quelle sera la conséquence du prix croissant d'une marchandise? Les capitaux se jetteront en masse sur la branche d'industrie florissante et cette immigration des capitaux dans le domaine de l'industrie favorisée persistera tant que celle-ci rapportera les gains habituels ou plutôt jusqu'au moment où le prix de ces produits descendra par suite de surproduction au-dessous des prix de production. Inversement, si le prix d'une marchandise tombe au-dessous des frais de production, les capitaux se retireront de la production de cette marchandise. Si l'on accepte le cas où une branche de production ayant perdu son actualité ne peut moins faire que de disparaître, la production de cette marchandise, c'est-à-dire son offre, va diminuer par suite de cette fuite des capitaux, jusqu'à ce qu'elle corresponde à la demande. Par conséquent, son prix va se relever à nouveau jusqu'au niveau de ses frais de production, ou plutôt jusqu'à ce que l'offre soit tombée au-dessous de la demande. C'est-à-dire jusqu'à ce que son prix se relève au-dessus de ses frais de production, car le prix courant d'une marchandise est toujours au-dessous ou au-dessus de ses frais de production. Nous voyons que les capitaux émigrent et immigrent constamment, passant du domaine d'une industrie dans celui d'une autre, le prix élevé provoquant une trop forte immigration et le prix bas une trop forte émigration. Nous pourrions montrer d'un autre point de vue que non seulement l'offre, mais aussi la demande, est déterminée par les frais de production. Mais cela nous entraînerait trop loin de notre sujet. Nous venons de voir que les oscillations de l'offre et de la demande ramènent toujours à nouveau le prix d'une marchandise à ses frais de production. Le prix réel d'une marchandise est bien toujours au-dessus ou au-dessous de ses frais de production. Mais la hausse et la baisse se complètent mutuellement, de sorte que, dans les limites d'une période de temps déterminée, si l'on fait le total du flux et du reflux de l'industrie, les marchandises sont échangées entre elles proportionnellement à leurs frais de production, c'est-à-dire que leur prix est déterminé par leurs frais de production. Cette détermination du prix par les frais de production ne doit pas être comprise dans le sens des économistes. Les économistes disent que le prix moyen des marchandises est égal aux frais de production, que telle est la loi. Ils considèrent comme un fait du hasard le mouvement anarchique par lequel la hausse est compensée par la baisse et la baisse par la hausse. On pourrait considérer avec autant de raison, comme cela est arrivé d'ailleurs à d'autres économistes, les oscillations comme étant la loi et la détermination par les frais de production comme étant le fait du hasard. Mais ce sont ces oscillations seules qui, regardées de plus près, entraînent les dévastations les plus terribles et, pareil à des tremblements de terre, ébranlent la société bourgeoise jusque dans ses fondements. Ce sont ces oscillations seules qui, au fur et à mesure qu'elles se produisent, déterminent le prix par les frais de production. C'est l'ensemble du mouvement de ce désordre qui est son ordre même. C'est au cours de cette anarchie industrielle, c'est dans ce mouvement en rond que la concurrence compense, pour ainsi dire, une extravagance par l'autre. Nous voyons donc ceci. Le prix d'une marchandise est déterminé par ses frais de production, de telle façon que les moments où le prix de cette marchandise monte au-dessus de ses frais de production sont compensés par les moments où il s'abaisse au-dessous des frais de production, et inversement. Naturellement, cela n'est pas vrai pour un seul produit donné d'une industrie, mais seulement pour toute la branche industrielle. Cela n'est donc pas vrai non plus pour un industriel pris isolément, mais seulement pour toute la classe des industriels. La détermination du prix par les frais de production est identique à la détermination du prix par le temps de travail qui est nécessaire à la production d'une marchandise. Car les frais de production se composent, premièrement, de matières premières et d'instruments, ouvrez la parenthèse, de l'usure d'instruments, fermez la parenthèse, c'est-à-dire de produits industriels dont la production a coûté une certaine quantité de temps, de travail, et qui représente par conséquent une certaine somme de temps de travail. Et, deuxièmement, de travail immédiat dont la mesure est précisément le temps. Mais ces mêmes lois générales qui règlent le prix des marchandises en général règlent naturellement aussi le salaire, le prix du travail. Le salaire du travail va tantôt monter, tantôt baisser, suivant les rapports entre l'offre et la demande, suivant la forme que prend la concurrence entre les acheteurs de la force de travail, les capitalistes, et les vendeurs de la force de travail, les ouvriers. Aux fluctuations des prix des marchandises en général correspondent les fluctuations du salaire. Mais dans les limites de ces fluctuations, le prix du travail est déterminé par les frais de production, par le temps de travail qui est nécessaire pour produire cette marchandise, la force de travail. Mais quels sont les frais de production de la force de travail elle-même? Ce sont les frais qui sont nécessaires pour conserver l'ouvrier en tant qu'ouvrier et pour en faire un ouvrier. C'est pourquoi moins un travail exige de temps pour la formation professionnelle, moins les frais de production de l'ouvrier sont grands et plus le prix de son travail, de son salaire, est bas. Dans les branches d'industrie où l'on n'exige presque pas d'apprentissage et où la simple existence matérielle de l'ouvrier suffit, les frais de production qui sont nécessaires à ce dernier se bornent presque uniquement aux marchandises indispensables à l'entretien de sa vie, de manière à lui conserver sa capacité de travail. C'est pourquoi le prix de son travail sera déterminé par le prix des moyens de subsistance nécessaires. Cependant, il s'y ajoute encore une autre considération. Le fabricant qui calcule ses frais de production, et d'après ceci, le prix des produits, fait entrer en ligne de compte l'usure des instruments de travail. Si une machine lui coûte par exemple 1000 francs et qu'il l'use en 10 ans, il ajoute chaque année 100 francs au prix de la marchandise pour pouvoir remplacer au bout de 10 ans la machine usée par une neuve. Il faut comprendre de la même manière, dans les frais de production de la force de travail simple, les frais de reproduction par le moyen desquels l'espèce ouvrière est mise en état de se multiplier et de remplacer les ouvriers usés par de nouveaux. L'usure de l'ouvrier est donc portée en compte de la même façon que l'usure de la machine. Les frais de production de la force de travail simple se composent donc des frais d'existence et de reproduction de l'ouvrier. Le prix de ces frais d'existence et de reproduction constitue le salaire. Le salaire ainsi déterminé s'appelle le minimum de salaire. Ce minimum de salaire, tout comme la détermination du prix des marchandises par les frais de production en général, joue pour l'espèce et non pour l'individu pris isolément. Il y a des ouvriers qui, par millions, ne reçoivent pas assez pour pouvoir exister et se reproduire. Mais le salaire de la classe ouvrière tout entière est, dans les limites de ses oscillations, égal à ce minimum. Maintenant que nous avons fait la clarté sur les lois les plus générales qui régissent le salaire, ainsi que le prix de toute autre marchandise, nous pouvons entrer plus avant dans notre sujet. Le capital se compose de matières premières, d'instruments de travail et de moyens de subsistance de toutes sortes qui sont employés à produire de nouvelles matières premières, de nouveaux instruments de travail et de nouveaux moyens de subsistance. Toutes ces parties constitutives sont des créations du travail, des produits du travail accumulé. Le travail accumulé, qui sert de moyen pour une nouvelle production, est du capital. C'est ainsi que parlent les économistes. Qu'est-ce qu'un esclave nègre? Un homme de race noire? Cette explication a autant de valeur que la première. Un nègre est un nègre. C'est seulement dans des conditions déterminées qu'il devient esclave. Une machine à filer le coton est une machine pour filer le coton. C'est seulement dans des conditions déterminées qu'elle devient du capital. Arrachée à ces conditions, elle n'est pas plus du capital que l'or n'est par lui-même de la monnaie, ou le sucre, le prix du sucre. Dans la production, les hommes n'agissent pas seulement sur la nature, mais aussi les uns sur les autres. Ils ne produisent qu'en collaborant d'une manière déterminée et en échangeant entre eux leurs activités. Pour produire, ils entrent en relation et en rapport déterminé les uns avec les autres. Et ce n'est que dans les limites de ces relations et de ces rapports sociaux que s'établit leur action sur la nature, la production. Suivant le caractère des moyens de production, ces rapports sociaux que les producteurs ont entre eux, les conditions dans lesquelles ils échangent leurs activités et prennent part à l'ensemble de la production, seront tout naturellement différents. Par la découverte d'un nouvel engin de guerre, l'arme à feu, toute l'organisation interne de l'armée a été nécessairement modifiée. Les conditions dans lesquelles les individus constituent une armée et peuvent agir en tant qu'armée se sont trouvées transformées. Et les rapports des diverses armées entre elles en ont été changés également. Donc, les rapports sociaux suivant lesquels les individus produisent, les rapports sociaux de production changent, se transforment avec la modification et le développement des moyens de production matériels, des forces de production. Dans leur totalité, les rapports de production forment ce qu'on appelle les rapports sociaux, la société, et notamment une société à un stade de développement historique déterminé. Une société à caractère distinctif, déterminé. La société antique, la société féodale, la société bourgeoise sont des ensembles de rapports de production de ce genre, dont chacun caractérise en même temps un stade particulier de développement dans l'histoire de l'humanité. Le capital représente lui aussi des rapports sociaux. Ce sont des rapports bourgeois de production de la société bourgeoise. Les moyens de subsistance, les instruments de travail, les matières premières dont se compose le capital, n'ont-ils pas été produits et accumulés dans des conditions sociales données, suivant des rapports sociaux déterminés? Ne sont-ils pas employés pour une nouvelle production dans des conditions sociales données, suivant des rapports sociaux déterminés? Et n'est-ce point précisément ce caractère social déterminé qui transforme les produits servant à la nouvelle production en capital? Le capital ne consiste pas seulement en moyens de subsistance, en instruments de travail et matières premières, pas seulement en produits matériels. Il consiste au même degré en valeurs d'échange. Tous les produits dont il se compose sont des marchandises. Le capital n'est donc pas seulement une somme de produits matériels, c'est aussi une somme de marchandises, de valeurs d'échange, de grandeur sociale. Le capital reste le même, que nous remplacions la laine par le coton, le blé par le riz, les chemins de fer par les bateaux à vapeur, à condition seulement que le coton, le riz, les bateaux à vapeur, la matière du capital, est la même valeur d'échange, le même prix que la laine, le blé et les chemins de fer dans lesquels il était incorporé auparavant. La matière du capital peut se modifier constamment sans que le capital subisse le moindre changement. Mais si tout capital est une somme de marchandises, c'est-à-dire de valeur d'échange, toute somme de marchandises, de valeur d'échange, n'est pas encore du capital. Toute somme de valeur d'échange est une valeur d'échange. Chaque valeur d'échange est une somme de valeur d'échange. Par exemple, une maison qui vaut 1000 francs est une valeur d'échange de 1000 francs. Un morceau de papier qui vaut 1 centime est une somme de valeur d'échange de 100% de centimes. Les produits qui sont échangeables contre d'autres sont des marchandises. Le rapport déterminé suivant lequel ils sont échangeables constitue leur valeur d'échange ou, exprimé en argent, leur prix. La masse de ces produits ne peut rien changer à leur destination d'être une marchandise ou de constituer une valeur d'échange ou d'avoir un prix déterminé. Qu'un arbre soit grand ou petit, il reste un arbre. Que nous échangions du fer par once ou par quinto contre d'autres produits, cela change-t-il leur caractère qui est d'être une marchandise, une valeur d'échange? Suivant sa masse, une marchandise a plus ou moins de valeur, elle est d'un prix plus élevé ou plus bas. Mais comment une somme de marchandises, de valeur d'échange, devient-elle du capital? Par le fait que, en tant que force sociale indépendante, c'est-à-dire en tant que force d'une partie de la société, elle se conserve et s'accroît par son échange contre la force de travail immédiate, vivante. L'existence d'une classe ne possédant rien que sa capacité de travail est une condition première nécessaire du capital. Ce n'est que la domination du travail accumulé, passé, matérialisé sur le travail immédiat, vivant, qui transforme le travail accumulé en capital. Ce qui caractérise le capital, ce n'est pas le travail accumulé qui sert de moyen au travail vivant pour faire une nouvelle production, mais le travail vivant qui sert de moyen au travail accumulé pour maintenir et accroître la valeur d'échange de celui-ci. Que se passe-t-il dans l'échange entre le capitaliste et le salarié ? L'ouvrier reçoit des moyens de subsistance en échange de sa force de travail. Mais le capitaliste, en échange de ses moyens de subsistance, reçoit du travail, l'activité productive de l'ouvrier, la force créatrice au moyen de laquelle l'ouvrier non seulement restitue ce qu'il consomme, mais donne au travail accumulé une valeur plus grande que celle qu'il possédait auparavant. L'ouvrier reçoit du capitaliste une partie des moyens de subsistance existants. À quoi lui servent ces moyens de subsistance ? À sa consommation immédiate. Mais dès que je consomme des moyens de subsistance, ils sont immédiatement perdus pour moi, à moins que je n'utilise le temps pendant lequel ces moyens assurent mon existence pour produire de nouveaux moyens de subsistance, pour créer par mon travail de nouvelles valeurs à la place des valeurs que je fais disparaître en les consommant. Mais n'est-ce pas précisément cette force productrice noble, ouvrez la parenthèse, edel, fermez la parenthèse, que l'ouvrier cède au capital en échange des moyens de subsistance qu'il reçoit ? Par conséquent, elle s'en trouve perdue pour lui-même. Prenons un exemple. Un fermier donne à son journalier 50 centimes par jour. Pour ces 50 centimes, celui-ci travaille toute la journée dans les champs du fermier et lui assure ainsi un revenu de 1 franc. Le fermier ne se voit pas seulement restituer les valeurs qu'il doit céder au journalier, il les double. Il a donc utilisé, consommé les 50 centimes qu'il a donnés au journalier d'une façon féconde, productive. Il a acheté pour ces 50 centimes le travail et la force du journalier qui font pousser des produits du sol pour une valeur double et qui transforment 50 centimes en 1 franc. Par contre, le journalier reçoit à la place de sa force productrice, dont il a cédé les effets au fermier, 50 centimes qu'il échange contre des moyens de subsistance qu'il consomme plus ou moins rapidement. Les 50 centimes ont donc été consommés de double façon, de façon reproductive pour le capital, car ils ont été échangés contre une force de travail qui a rapporté 1 franc, de façon improductive pour l'ouvrier, car ils ont été échangés contre des moyens de subsistance qui ont disparu pour toujours et dont il ne peut s'assurer la valeur qu'en répétant le même échange avec le fermier. Le capital suppose donc le travail salarié. Le travail salarié suppose le capital. Ils sont la condition l'un de l'autre. Ils se créent mutuellement. L'ouvrier d'une fabrique d'étoffes de coton ne produit-il que des étoffes de coton ? Non. Il produit du capital. Il produit des valeurs qui servent à leur tour à commander son travail afin de créer au moyen de celui-ci de nouvelles valeurs. Le capital ne peut se multiplier qu'en s'échangeant contre de la force de travail, qu'en créant du travail salarié. La force de travail de l'ouvrier salarié ne peut s'échanger que contre du capital, en accroissant le capital, en renforçant la puissance dont il est l'esclave. La multiplication du capital est par conséquent la multiplication du prolétariat, c'est-à-dire de la classe ouvrière. L'intérêt du capitaliste et de l'ouvrier est donc le même, prétendent les bourgeois et leurs économistes. En effet, l'ouvrier périt si le capitaliste ne l'occupe pas. Le capital disparaît s'il n'exploite pas la force du travail. Et pour l'exploiter, il faut qu'il l'achète. Plus le capital destiné à la production, le capital productif, se multiplie rapidement, plus l'industrie, par conséquent, est florissante. Plus la bourgeoisie s'enrichit, mieux vont les affaires, plus le capitaliste a besoin d'ouvriers, et plus l'ouvrier se vend cher. La condition indispensable pour une situation passable de l'ouvrier est donc la croissance aussi rapide que possible du capital productif. Mais qu'est-ce que la croissance du capital productif? C'est la croissance de la puissance du travail accumulé sur le travail vivant. C'est la croissance de la domination de la bourgeoisie sur la classe laborieuse. Lorsque le travail salarié produit la richesse étrangère qui le domine, la force qui lui est hostile, le capital, ses moyens d'occupation, c'est-à-dire ses moyens de subsistance, reflue de celui-ci vers lui à condition qu'il devienne de nouveau une partie du capital, le levier qui imprime de nouveau à celui-ci un mouvement de croissance accélérée. Quand on dit « les intérêts du capital et les intérêts des ouvriers sont les mêmes », cela signifie seulement que le capital et le travail salarié sont deux aspects d'un seul et même rapport. L'un est la conséquence de l'autre, comme l'usurier et le dissipateur s'engendrent mutuellement. Tant que l'ouvrier salarié est ouvrier salarié, son sort dépend du capital. Telle est la communauté d'intérêts tant vantée de l'ouvrier et du capitaliste. Lorsque le capital s'accroît, la masse du travail salarié grossit. Le nombre des ouvriers salariés augmente. En un mot, la domination du capital s'étend sur une masse plus grande d'individus. Et, supposons le cas le plus favorable. Lorsque le capital productif s'accroît, la demande de travail augmente. Donc le prix du travail, le salaire, monte. Une maison peut être grande ou petite, tant que les maisons environnantes sont petites. Elle aussi, elle satisfait à tout ce qu'on exige socialement d'une maison. Mais s'il s'élève à côté de la petite maison un palais, voilà que la petite maison se ravale au rang de chaumière. La petite maison est alors la preuve que celui qui l'habite ne saurait être exigeant, ou qu'il ne peut avoir que des exigences très modestes. Et au cours de la civilisation, elle peut s'agrandir tant qu'elle veut. Si le palais voisin grandit aussi vite, ou même dans de plus grandes proportions, celui qui habite la maison relativement petite se sentira de plus en plus mal à l'aise, mécontent, à l'étroit entre ses quatre murs. Une augmentation sensible du salaire suppose un accroissement rapide du capital productif. L'accroissement rapide du capital productif entraîne une croissance aussi rapide de la richesse, du luxe, des besoins et des plaisirs sociaux. Donc, bien que les plaisirs de l'ouvrier se soient accrus, la satisfaction sociale qu'il procure a diminué, comparativement aux plaisirs accrus du capitaliste qui sont inaccessibles à l'ouvrier. Comparativement au stade de développement de la société en général. Nos besoins et nos plaisirs ont leur source dans la société. Nous les mesurons par conséquent à la société. Nous ne les mesurons pas aux objets de notre satisfaction. Comme ils sont de nature sociale, ils sont de nature relative. Le salaire n'est donc pas déterminé en général seulement par la masse de marchandises que je peux obtenir en échange. Il renferme divers rapports. Ce que les ouvriers reçoivent tout d'abord pour leur force de travail, c'est une somme d'argent déterminée. Le salaire n'est-il déterminé que par ce prix en argent ?